Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, nous tournerons les pages d'un livre de Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Un roman qui est paru aux éditions Gallimard. Marie-Christine Galissier, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors j'aimerais bien que vous évoquiez pour nous la vie de Patrick Modiano.
Patrick Modiano est né à Boulogne-Billancourt le 30 juillet 1945. Il passe son enfance dans divers pensionnats à Biarritz, Jouy-en-Josas et en Haute-Savoie. Ses parents sont très souvent absents et il est très tôt livré à lui-même. Il entretient des relations donc privilégiées avec son frère Rudy. Et évidemment, la mort dramatique de son frère d'une maladie à l'âge de 10 ans le marque terriblement et même pour toujours. Il termine ses études au lycée Henri IV où il passe son baccalauréat avec brio, ne s'engage pas dans des études littéraires et se met tout de suite à la littérature. Il écrit son premier roman qui est « La place de l'étoile ». Donc en 1968, il a 23 ans et il obtient le prix de l'Académie française. Il reçoit 10 ans plus tard le prix Goncourt pour La rue des boutiques obscures. Il est l'auteur d'une vingtaine de romans et de recueils, toujours parus chez Gallimard. Et il a également participé au film de Louis Malle, Lacombe Lucien, et d'un autre film de Jean-Paul Rapneau, Le Bon Voyage. Il a reçu de nombreux prix, dont le Grand Prix National des Lettres, le Grand Prix de Littérature de Paul Morand, le Prix de Cino Del Duca pour son œuvre, et ensuite maintenant le Prix Nobel pour toute son œuvre.
Oui, il faut savoir que l'Académie suédoise a décerné, donc le 9 octobre 2014, le Prix Nobel de Littérature à Patrick Modiano, et je cite, « pour son art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation. Il est donc le 15e écrivain français à recevoir cette prestigieuse récompense. Ce livre est fort intéressant parce que c'est un roman et dans ce roman, on a en fait tout l'univers de Modiano. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, le carnet d'adresses perdu, la rencontre de 3 personnages, les cafés, l'enquête. Mais ce qui nous intéresse au premier chef dans ce livre, ce n'est pas l'énigme à résoudre qui va nous tenir en haleine, non, ni la psychologie des personnages, c'est plutôt le mystère, et c'est ça en quelque sorte la nouveauté. On pourrait presque trouver dans cet ouvrage 3 parties. Alors, peut-être que vous pourriez évoquer pour nous ces différentes parties de ce livre. On commence peut-être par le présent. Alors, situez-nous un peu les personnages.
Alors peut-être juste avant de situer les personnages, il faut quand même parler de la citation de Stendhal tirée du livre de Vie de Henri Brulard qui est en tête du livre et qui est donc choisie par l'auteur. « Je ne puis pas donner la réalité des faits, je n'en puis présenter que l'ombre. » Et ça indique très bien tout le parcours dans ce livre de ces personnages qui sont assez flous, qui sont évoqués de façon un petit peu... Enfin, qui sont cernés sans plus. C'est un ensemble de choses un peu
flou. Oui, mais on les découvre quand même
absolument,
assez vite
tout à fait bien.
Et de façon quand même
voilà,
précise.
Et en les lisant avec justement un peu de retenue et de profondeur, on découvre beaucoup plus de choses que ce qui est apparemment écrit. Alors le présent, donc il s'agit d'un écrivain, Jean d'Aragan, qui est déjà et qui est devenu au fil du temps un solitaire, même un peu ours, au point qu'au début du livre, il est effrayé par la sonnerie de son téléphone, qui n'avait pas sonné depuis longtemps.
Oui, c'est ça, il n'a plus de téléphone.
Il n'a plus de téléphone,
il n'a plus d'amis.
Voilà. Et il dit d'ailleurs qu'il ne souffre pas de sa solitude, qu'au contraire, elle lui apporte beaucoup à son âge, beaucoup de détente, et puis que maintenant, il n'a qu'un bonheur, c'est regarder l'arbre qui est dans sa cour et lire les œuvres de Buffon.
Voilà, il lit Buffon, et ça, c'est quand même très intéressant. Voilà.
Évidemment, il se passe quelque chose, le téléphone sonne et on lui apprend.
Ce qui est très rare.
Tout à fait. Il ne sait même plus se servir de son portable. Donc, une personne l'appelle, qui s'appelle un certain Gilles Ottolini, et lui dit avoir retrouvé de son carnet d'adresse qu'il avait perdu effectivement. Et cet homme est prêt à le lui rendre, à le rencontrer pour le lui rendre. Et lui, au fond, un petit peu surpris par cet appel, trouve à la voix de cet homme un ton un petit peu menaçant. Enfin, il est donc heureux, prenne rendez-vous, un peu malgré lui, parce qu'il trouve qu'il s'est un petit peu laissé avoir. Et lors de la rencontre, on évoque un monsieur Torstel, le nom lui dit vaguement quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il commence, ce nom de Torstel, ou ce qui se passe, devient un petit peu comme, Christiane, je vous laisse lire la page 33.
Oui, on va retrouver cette piqûre d'insectes dont nous avons parlé. Le présent et le passé se confondent, et cela semble naturel puisqu'ils n'étaient séparés que par une paroi de cellophane. Il suffisait d'une piqûre d'insectes pour crever la cellophane. Il n'aurait su dire l'année, mais il était très jeune, dans une chambre aussi petite que celle-ci, en compagnie d'une fille qui s'appelait Chantal. Un prénom assez courant à l'époque. Effectivement, ce coup de téléphone, c'est la piqûre d'insectes qui va crever le cellophane, c'est bien ça.
Sous lequel il était enfoui ses souvenirs d'un passé de son enfance, en fait, qu'il avait voulu oublier. Et malgré lui, les choses vont revenir en sa mémoire.
Premier personnage, vous avez évoqué Guy Torstel.
Guy Torstel.
Alors, un autre personnage qui va être très important,
c'est Gilles Ottolini, accompagné de Chantal Grippet, qui vont à cette période de la lecture, nous découvrons donc ces personnages qui vont remuer beaucoup de choses par le rendu, enfin quand ils ont rencontré l'auteur et lui rendent son carnet d'adresses, ils vont être un petit peu les éléments moteurs de ce sur le quoi il va tomber ensuite, c'est-à-dire ce souvenir d'une personne qui avait été extrêmement importante dans sa vie,
oui,
qui avait un peu remplacé sa mère alors qu'il était seul, quelque part à la campagne, à Saint-Leu-la-Forêt, avec cette femme. Et cette femme s'appelle Annie Astran. Et à ce moment-là, avant de revenir en mémoire de cela, il y a une phrase peut-être que l'on pourrait citer, juste une phrase qui est « Les souvenirs d'enfance sont souvent de petits détails qui se détachent du néant ».
Oui.
Et donc, voilà, cette Annie Astran va, comment dirais-je, apparaître dans sa vie.
C'est elle qui est le centre du
roman.
Voilà,
elle est en fait le centre du roman. Et même, on va découvrir ensuite que c'est pour elle que l'auteur avait écrit précédemment un livre pour essayer de la revoir. Donc, Annie Astran.
Alors, effectivement, le premier ouvrage qu'il aurait écrit, enfin ce Jean d'Aragan, qui est le héros de notre ouvrage, eh bien, il aurait voulu écrire un livre qui serait en quelque sorte une sorte d'appel de bouteille à la mer qu'il avait lancé. Donc vous voudriez que nous lisions
à la page 48, le souvenir, ce qu'évoque le nom d'Annie Astran pour lui.
Un seul nom provoquait son trouble et avait pour lui l'effet d'un aimant, Annie Astran. Mais il était à peine lisible au milieu de ces mots entassés sans double interligne. Annie Astran. Une voix lointaine captée très tard à la radio et dont vous vous dites qu'elle s'adresse à vous pour vous transmettre un message. Quelqu'un lui avait affirmé un jour que les voix de ceux dont vous avez été proche dans le passé, vous les oubliez très vite. Pourtant, s'il entendait aujourd'hui la voix d'Annie Astran derrière lui, dans la rue, il était certain qu'il la reconnaîtrait. Alors, effectivement, je crois que les voix qui nous sont chères, on les oublie très vite. Il faut quelque chose d'extrêmement important. Et donc, s'il se souvient de cette voix d'Annie Astran, c'est que peut-être, effectivement, elle a été une mère de substitution, mais elle a dû être également Une maîtresse, enfin quelqu'un qu'il a beaucoup aimé.
Beaucoup aimé, sûrement, puisqu'il évoque même cette relation ensuite de maîtresse et donc une autre relation quand il est adolescent. Il raconte qu'il essaie de retrouver Annie Astrand, qu'il retrouve son adresse, lui envoie un petit mot auquel elle ne répond pas et il décide alors de se rendre à l'adresse de Annie Astrand. Il la retrouve. Il la trouve très peu changée physiquement. Elle le traite encore comme le petit garçon qu'il était, donc elle l'appelle mon petit Jean. Mais peu à peu, la confiance, la joie de se retrouver fait que les relations entre eux évoluent et que beaucoup de tendresse et de complicité s'installent entre eux. Et puis finalement, plus que de la tendresse, comment dirais-je, une aventure en effet se précise.
Alors peut-être nous pouvons lire page 58.
Voilà.
Mais pourquoi donc était-il entré dans l'intimité de Gilles Ottolini et de cette Chantal Grippé ? Autrefois, les nouvelles rencontres étaient souvent brutales et franches. Deux personnes qui se heurtent dans la rue, comme les auto-tamponneuses de son enfance. Là, tout s'était passé en douceur. Un carnet d'adresses perdu, des voix au téléphone, un rendez-vous dans un café. Oui. Tout avait la légèreté d'un rêve, et les pages du dossier lui avaient aussi procuré une sensation étrange, à cause de certains noms, et surtout celui d'Annie Astrand, et de tous ces mots tassés les uns sur les autres sans double interligne. Il se trouvait brusquement en présence de certains détails de sa vie, mais reflétés dans une glace déformante de ces détails décousus qui vous poursuivent les nuits de fièvre.
Donc, il retrouve cette femme qui a été pour lui plus qu'importante, qu'il perd ensuite de vue et qu'il va retrouver grâce à cette piqûre d'insectes qui s'est passée lors de la restitution de son carnet d'adresses. Donc, les années sont passées encore et c'est là où il retrouve ensuite donc Annie Astrand.
Oui.
Et nous arrivons avec toutes les vocations. Maintenant, nous arrivons à la période de son enfance.
Oui, et cette enfance est extrêmement importante parce qu'on comprend maintenant déjà beaucoup mieux le titre « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » puisque qu'apprend-on exactement ? Qu'est-ce qu'il y a dans sa poche ?
Alors en fait, comme il était enfant et qu'Annie Astrand veillait très fort et l'aimait de tout son cœur, tout enfant se promenant seul, elle avait peur qu'il ne retrouve pas l'adresse ou qu'il puisse signaler son adresse à quelqu'un. Il avait donc en permanence dans sa poche, plié en quatre, un papier sur lequel était écrit son adresse. Et sur ce papier, Annie Astrand avait mis une grande écriture « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ». Voilà, c'était donc un talisman pour ne pas s'égarer.
Et je lis donc les dernières lignes de ce bel ouvrage. Au début, ce n'est presque rien. Le crissement des pneus sur le gravier, un bruit de moteur qui s'éloigne. Il vous faut un peu de temps encore pour vous rendre compte qu'il ne reste plus que vous dans la maison. Effectivement, cet enfant aura perdu sa mère et l'amour de sa vie. Grand merci Marie-Christine Galissier.
C'était avec grand
plaisir.
Chers
amis auditeurs, vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.
Merci.